Actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 7 février 2018. Au menu d'aujourd'hui, toutes les stations de métro universellement accessibles en 2038, Québec ouvert à l'idée de mieux soutenir les plus vulnérables, objectif dépassé pour les beaux 4 heures, santé mentale, les étudiants plus nombreux à demander des accommodements aux universités, et en entrevue, je recevrai Julie Pascale Provost, conseillère d'arrondissement du district du canal arrondissement La Chine et professeure en anthropologie au cégep Édouard Montpetit, et aussi Geneviève Guilbeault, présidente du conseil d'administration de l'organisme D'un œil différent. Hélène Denis qui est avec vous. Nouvelle tirée du journal Métro.com, toutes les stations de métro universellement accessibles en 2038. D'ici 20 ans, toutes les stations de métro seront universellement accessibles, a promis lundi la Société de transport de Montréal. À ce jour, seulement 14 des 68 stations sont équipées d'ascenseurs, a indiqué la STM, tout en précisant que les stations du Collège et Honoré-Beaugrand seront également munies d'un dispositif similaire dans quelques mois. L'organisme compte accélérer la cadence, tel que l'a expliqué son président Philippe Schnob lors de la présentation du prochain programme d'immobilisation de l'organisme pour les 10 prochaines années. Alors que M. Schnob avait déjà mentionné à la fin de l'été dernier vouloir munir 41 stations d'équipement nécessaires d'ici 2025 pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite et des familles avec de jeunes enfants, la STM a ouvert un bureau de projet dédié à ce dossier. Celui-ci est chargé de trouver des solutions pour des emplacements comprenant des enjeux de faisabilité importants. Philippe Schnob a notamment évoqué des problèmes concernant les stations Baudry, Papineau et Berry-UQAM pour l'accès aux lignes jaunes et vertes. Ça a l'air facile de faire un trou dans le plafond, mais des fois, le plafond est important dans la structure, a-t-il détaillé, tout en se montrant ouvert à un calendrier plus court. Si on peut le faire plus vite, on va le faire plus vite. Mais ça va se faire, c'est clair, a clamé Philippe Schnob. Nouvelle tirée du Devoir, Québec ouvert à l'idée de mieux soutenir les plus vulnérables. Le gouvernement libéral ouvre la porte à une révision à la hausse de l'allocation de dépenses personnelles, actuellement 215 $ par mois, des milliers de personnes handicapées hébergées en ressources intermédiaires. On va essayer de trouver une solution, s'il y en a une, avec la RAMQ, a déclaré le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, hier. Les personnes handicapées en situation de pauvreté en ressources intermédiaires et en ressources de type familial n'ont pas touché un sou de la hausse de la prestation de solidarité sociale de 73 $ par mois en vigueur depuis le 1er février dernier. En effet, la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, s'est emparée du montant. Pour y arriver, elle a fait passer la contribution exigée de la part des résidents recevant des prestations de solidarité sociale de 747 $ à 820 $ ont dénoncé les partis politiques d'opposition à l'occasion de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale. La coalition Avenir Québec menait la charge. Le gouvernement donne d'une main et reprend de l'autre, avait dénoncé la curatrice privée Nicole David dans un entretien avec Le Devoir samedi. Elle croyait que son protégé Jean-Pierre, nom fictif, qui est atteint d'une forme grave d'autisme qui le laisse muet et qui a un pied beau qui restreint sa mobilité, pourrait dorénavant mettre de côté un montant d'argent afin d'acquitter les frais d'inscription à un camp d'été ou encore procéder à l'achat d'une paire de chaussures orthopédiques. Elle avait tort. La RAMQ garantit une allocation de dépenses mensuelles de 215 $ à toute personne en situation de pauvreté en ressources intermédiaires. Ainsi, elle garde le reste de la prestation d'aide de dernier recours, c'est-à-dire 820 $ pour les personnes ayant des contraintes sévères, 567 $ pour les personnes ayant des contraintes temporaires ou encore 433 $ pour les personnes sans contraintes à l'emploi. La Chine réussit à rendre accessible universellement l'un de ses bâtiments patrimoniaux les plus fréquentés, la Vieille Brasserie. C'est une très bonne nouvelle qu'on partage avec Julie Pascal Provost, conseillère d'arrondissement du district du Canal, arrondissement La Chine, et professeure au cégep Édouard Montpetit en anthropologie. J'imagine que ça vous fait plaisir, Mme Provost.
Ça me fait très plaisir de vous parler ce matin d'un sujet qui me tient à cœur.
Oui, j'imagine bien. Est-ce le premier bâtiment dit patrimonial qui devient accessible à tous à La Chine?
En fait, pas vraiment. Actuellement, on a déjà l'entrepôt qui est la salle où on fait les spectacles.
Oui, c'est vrai.
À la ville, qui est muni d'un monte-charge. Et il y a la maison du brasseur qui, au premier... En fait, des fois, quand on fait des aménagements pour faciliter l'accès, bon, tout n'est pas parfait. Ben, c'est le cas à la maison du brasseur où on a une rampe pour accéder au premier, mais on n'accède pas aux parties supérieures. Donc, c'est comme un aménagement partiel actuellement.
Mm-hmm. Et pourquoi avoir choisi ce bâtiment de la Vieille Brasserie?
En fait, c'est un bâtiment qui est grandement achalandé, l'un des plus achalandés. Les gens le réservent pour faire des mariages, des événements spéciaux. Puis on a des réservations qui sont prises un an d'avance. Donc, c'est vraiment une demande qui était réitérée année après année à l'ancienne administration.
Et, il faut dire que c'est un endroit magnifique situé en face du lac Saint-Louis. On a une vue imprenable.
Une vue imprenable. On voit le lac. C'est vraiment paradisiaque. La vue est vraiment extraordinaire. Puis il y a une belle terrasse là, qui donne accès à tout ça. L'été, c'est vraiment très, très beau. Puis l'hiver aussi, bien, il y a un cachet très champêtre. Donc, non, c'est vraiment une bâtisse qui est très, 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 très belle. Donc, c'est la raison pour laquelle on a tablé pour s'organiser pour la rendre universelle, parce que ça fait partie de nos préoccupations importantes à la Chine avec la nouvelle équipe de Projet Montréal. Nous sommes tous issus de Projet Montréal, donc mm-hmm. c'est des valeurs qui sont importantes pour nous de faire en sorte que tout l'ensemble des citoyens puissent avoir accès aux infrastructures municipales. Donc, dans un premier temps, je pense que c'était la chose à faire.
Oui. Et quels sont les travaux à réaliser pour que la Vieille Brasserie devienne accessible universellement?
En fait, il y a différentes choses assez techniques là, qui sont de faire des travaux de plomberie, d'électricité, tout ça. Mais en fait, le défi premier, c'était de trouver un accès qui était accessible au niveau du coût. Parce que les premières soumissions qui ont été faites étaient de 500 000 $. Donc, c'était pas envisageable.
Un demi-million.
Ouais. Oui, voilà. Donc, mais maintenant, on a trouvé avec une plateforme élévatrice là, un projet à 150 000 $, ce qui était beaucoup plus intéressant pour nous. Puis quand on pense à rendre des structures accessibles, là, l'accessibilité universelle, mm-hmm. bien, on pense aux élévateurs, on pense aux ascenseurs, mais il faut penser aussi aux toilettes. Souvent, c'est aussi des coûts qui sont reliés. Il faut rendre les toilettes accessibles. Donc, à la Vieille Brasserie, c'était un défi parce que, comme c'est un bâtiment très ancien, ben il fallait respecter un certain nombre de normes. Donc, mais le défi a été relevé.
Oui, on s'imagine que ça va coûter très, très cher justement parce que c'est un vieux bâtiment, mais vous avez octroyé un contrat de plus de 200 000 $. C'est assez là, pour réaliser ce que vous avez en tête?
Tout à fait. Donc, oui, le projet est cané. Tout a été résolu. Le défi a été relevé. D'ailleurs, les travaux vont commencer au mois de mars. Ils devraient se dérouler au courant du mois de mars et avril. Et la réouverture est prévue actuellement au mois de mai. Mais on est très fiers de s'associer à ce projet-là parce qu'on envisage déjà d'autres projets. Donc, oui. On va réfléchir en équipe là, parce qu'il y a d'autres bâtiments qui auraient intérêt, notamment à Saint-Pierre, là, à être revus pour permettre l'accessibilité à tous. Il y a l'ancien hôtel de ville qui est occupé actuellement par des groupes communautaires, dont des personnes âgées. Donc, ça fait vraiment très longtemps que les citoyens demandent à ce qu'il y ait une accessibilité universelle qui leur rende accessible les parties supérieures du bâtiment. Donc, je ne vous dis pas là, que c'est...
ça va se faire demain matin?
Non, pas du tout, mais sauf que la volonté politique, maintenant, est liée.
Oui, oui, vous avez vraiment une... vous êtes conscient de l'importance de l'accessibilité universelle.
Oui, puis c'est pas un enjeu nouveau. Vous savez, il y a déjà plusieurs années, sous l'administration précédente, il y a une dame qui occupait d'ailleurs mon poste, Lise Poulain, qui était elle-même en chaise roulante. Donc, ce sont des défis, des enjeux qu'elle a relevés à maintes reprises pour permettre de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès. Mais ben, il faut une écoute, une volonté politique. Puis elle est maintenant là. On y est. D'ailleurs, ça touche d'autres pans de la ville. Il y a au niveau, moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup parlé en campagne électorale. Vous savez, quand on fait la réflexion des rues, mm-hmm. on a une très vieille ville. Donc, des fois, il y a des poteaux qui sont au centre des trottoirs. Mais là, c'est des enjeux de sécurité, mais c'est aussi un problème pour les gens qui ont à se déplacer sur les trottoirs, les personnes âgées, les personnes en chaise roulante. Donc,
les mères aussi avec les poussettes, les pères avec les poussettes.
Tout à fait, tout à fait. Donc, des fois, il y a des rues qui sont récemment faites avec des poteaux dans les rues, puis parfois, c'est au milieu des trottoirs. Fait que là, on se dit, ben, c'est pour nous, ça semble être un non-sens, donc on va s'organiser pour s'enligner avec la fonction publique pour pouvoir revoir les projets autrement, pour permettre, et il y a une volonté là, de travailler en ce sens avec les fonctionnaires à la ville. Donc, c'est très positif actuellement. Puis, on va travailler pour faciliter les déplacements de l'ensemble des citoyens. C'est un enjeu qui nous tient à cœur. Puis
oui, ça paraît dans votre ton de voix. Puis, alors, on ira à la Chine. D'ailleurs, c'est une ville tellement agréable au bord de l'eau. Puis là, on aura aussi l'occasion d'aller faire un tour à la brasserie. Vous me dites que ça va être prêt. On va pouvoir profiter des installations au mois de mai?
Oui, oui, c'est ce qui est prévu. Donc, s'il n'y a pas d'anicroche, tout devrait réouvrir au mois de mai. Donc, je vous y invite. Vous êtes la bienvenue notre équipe.
Tout le personnel du Canal M, on va être là.
Ah, c'est super!
Merci beaucoup, Julie Pascale Provost, conseillère d'arrondissement du district du Canal, arrondissement La Chine, et professeure au Cégep Édouard Montpetit en anthropologie, une femme bien occupée. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. La sculpture sur neige comme activité thérapeutique, c'est sur le site de Radio-Canada. Une cinquantaine de sculpteurs sur neige étaient à l'œuvre la semaine dernière au parc de la rivière aux sables de l'arrondissement Jonquière. Ces artistes ont un point en commun, ils vivent avec un problème de déficience physique ou intellectuelle. Pour ce groupe de sculpteurs, les blocs de neige sont beaucoup plus que des œuvres d'art. Le temps d'une journée, ces personnes qui vivent avec une déficience physique ou intellectuelle prennent possession du site de Saguenay-en-Neige avec un objectif: se dépasser. Le Centre de réadaptation en déficience physique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean organise cette activité depuis maintenant 6 ans. On veut permettre aux clients de se dépasser dans une activité qui sort de leurs activités quotidiennes. De prendre des positions de travail avec des outils, avec des pelles, explique Marie-Ève Dallaire, technicienne au Centre de réadaptation en déficience physique. Pour des personnes à basse vision ou non-voyantes, c'est de réussir à sculpter, produire une forme à partir du seul toucher. Le groupe est diffusé en 7 équipes et chacune d'elles façonne une figure en lien avec son handicap. Les 7 sculptures pourront être admirées par tous les visiteurs du 18e Saguenay en neige qui a débuté officiellement le 1er février. Objectif dépassé pour les Beaux 4 heures collecte de fonds. Cette troisième édition des Beaux 4 heures qui se tenait au Sommet Saint-Sauveur samedi dernier, 3 février, a permis de dépasser l'objectif fixé d'amasser près de 416 000 $ pour la Fondation Martin Matt, qui a pour mission de venir en aide aux personnes vivant avec un traumatisme crânien ou avec une déficience physique. Cette année, plus de 500 participants ont dévalé les pentes de ski du Sommet Saint-Sauveur, souligne fièrement Laetitia Leclerc, directrice générale de la Fondation. Martin Matt les avait invités à se dépasser dans une course aux dons. Pour réaliser ce défi, Martin Matt s'est entouré d'ambassadeurs précieux, dont Fabien Cloutier, qui épaule maintenant Martin à l'année comme nouveau porte-parole de la Fondation. Ce dernier, qui vit avec les séquelles d'un traumatisme crânien depuis plusieurs années, a livré un témoignage sur l'importance de la Fondation. Alors, il ne s'agit pas ici de Fabien Cloutier, mais j'imagine bien du frère de Martin Matt. Les dons amassés avec cette édition serviront entre autres à financer de 2 nouvelles maisons Martin Matt à Trois-Rivières et à Trois-Pistoles, mentionne Martin Matt, porte-parole de la Fondation. Alors, il est impliqué dans cette cause-là, justement parce qu'il a un frère aux prises avec des séquelles d'un traumatisme crânien. Avec ces 2 nouvelles résidences, le réseau des maisons Martin Matt comptera 8 maisons d'ici la fin 2018. La Fondation soutient aussi plus de 40 organismes, ce qui nous permet d'aider plus de 1000 familles partout au Québec. La 13e édition du Festival d'un œil différent, une exposition des activités qui sera présentée dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Ça sera présenté donc en mars 2018 et j'en parle avec la présidente du conseil d'administration de l'organisme Un œil différent ou d'un œil différent, c'est bien important, le D apostrophe, Geneviève Guilbeault, bonjour.
Bonjour.
Alors, que nous réserve la 13e édition de l'exposition d'un œil différent?
Des belles surprises cette année.
Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler quelques-unes?
Pas vraiment des surprises. Je ne vous dévoilerai pas vraiment les surprises, mais je peux vous dire qu'il va y avoir une belle diversité d'œuvres d'abord pour l'exposition. On va avoir du 3 dimensions, des photos, de la peinture, des collectifs, du dessin. Il y a beaucoup de choses qui sont réalisées par des artistes qui vivent ou non avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Puis bien sûr, on va aussi avoir le plaisir de se retrouver tous ensemble, parce que d'un œil différent, ça vise à promouvoir plutôt le plaisir de créer ensemble plutôt mm-hmm. que de mettre l'accent sur les différences. C'est qu'on mélange tout le monde et qu'on essaie d'avoir du plaisir à créer ensemble.
Oui. Et qui organise cet événement?
C'est organisé par un comité qui est formé par des organismes communautaires comme la Gang à Rambrou, sans oublier le sourire, Compagnons de Montréal. C'est aussi, il y a aussi le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal et les Coumes Éditions Monde. C'est le comité qui organise.
Vous êtes assez nombreux?
Oui. Cinq organismes qui sont représentés par 5 personnes. Mais c'est une belle équipe.
Oui. Alors, il y a une exposition, il y a des activités. Quelles sont les activités cette année à ne pas manquer?
D'abord, pendant les 2 semaines d'activité, on a plusieurs activités scolaires. On vise beaucoup à sensibiliser la jeunesse. Il y a des visites commentées presque tous les jours. Mm-hmm. Il y a bien entendu la soirée d'ouverture qui a lieu le 7 mars.
Oui, sous la présidence d'honneur de Jean-Marie Lapointe.
Oui, Jean-Marie Lapointe va être avec nous. Et on a aussi, pendant cette soirée, on en profite pour faire le lancement de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui est présentée par la KIS. Et on a le privilège d'avoir aussi Vincent Guillaume-Métis avec nous pendant cette soirée-là.
Oui, qui est porte-parole avec Gabriel, dont le nom m'échappe, là, qui jouait dans
Gabriel
le film.
Gabriel Marion-Rivard.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ça va se dérouler où, cette soirée d'ouverture?
C'est à l'Écomusée. Okay. À l'Écomusée du Fiermonde.
Où toutes les activités se déroulent.
Oui, à peu près. On a une activité à l'extérieur qui est à l'UQAM, vendredi le 9 mars. Mm-hmm. Une exposition, c'est comme une espèce d'activité hors mur là, qui a lieu à l'UQAM pendant deux nights différents.
Et concernant l'exposition, combien d'artistes participants vous comptez?
On calcule à peu près, parce que là, les calculs finaux n'est pas encore fait, mais on calcule à peu près 140 œuvres qui vont être présentées par environ 165 exposants.
Oh.
Et plusieurs aussi artistes participants qui font des performances, et parce qu'il n'y a pas juste l'exposition d'art visuel, il y a des activités aussi pendant les deux semaines.
Oui. Est-ce qu'on voit une différence entre les œuvres d'artistes qui ont une DI, une déficience intellectuelle, et ceux qui n'en ont pas?
Pas toujours. Des fois, oui. Des ouais. fois, non. Ça dépend. Puis nous, notre objectif, c'est vraiment de ne pas mettre l'accent là-dessus. C'est de dire, bon, il y a quelqu'un qui s'est donné la peine de faire une œuvre d'art. On la présente parce qu'on trouve que c'est intéressant. Et peu importe si c'est quelqu'un qui a une déficience intellectuelle ou non, l'œuvre d'art, c'est l'œuvre d'art qui compte et la personne qui l'a faite.
Certainement. Est-ce qu'on va pouvoir les acheter, ces œuvres-là, si on a un coup de cœur en...
La plupart sont à vendre, oui.
Oui?
La plupart sont à vendre. Il faut se dépêcher parce qu'à l'heure de la soirée d'ouverture, on a à peu près le tiers des œuvres qui se vendent.
Ah oui?
Oui.
Alors, c'est très populaire. Ce sont des œuvres qui plaisent, qui séduisent.
Oui, oui. Il y a quand même pas mal de monde qui se présente. On a une belle soirée d'ouverture. On attend toujours autour de 400 personnes.
Pouvez-vous nous présenter quelques-uns des artistes?
Ben un petit peu. On a un trio qui s'appelle « Et les trois autres ». Qui est un trio d'artistes, dont un artiste photographe professionnel, qui travaille avec deux artistes professionnels aussi, qui deviennent professionnels, qui vivent avec une déficience intellectuelle, mais qui font partie de la gang à Rambrou. Ça fait la troisième année qu'ils travaillent ensemble, puis ils ont un concept intéressant. Ils travaillent ensemble tous les trois, ils s'inspirent d'une œuvre d'art connue, et ils font chacun une œuvre à leur façon dessus, puis c'est leur façon de travailler. Fait que là, ils sont devenus, ils ont perfectionné un petit peu leur technique, là, puis ils nous présentent une de ces œuvres-là. On a des œuvres de Gilles Grégoire, qui est un de nos artistes qui travaille à la gang à Rambrou et qui a quand même une certaine notoriété. Là. Il a fait plusieurs expositions solo dans des cafés. Lui aussi, c'est un bon vendeur d'œuvres d'art, je dirais.
Alors, on ira découvrir. Oui, allez-y, Geneviève, parce qu'il nous reste quelques secondes.
Oui, c'est beau. C'est beau.
Oui, c'est beau?
Oui.
Non, mais je ne voulais pas vous couper.
Non, c'est correct. Je pourrais vous en nommer tellement.
Oui, bon, on ira faire un tour. Alors, c'est à partir du 7 mars jusqu'au 18 mars. L'entrée est libre. C'est à l'Éco-Musée du Fier-Monde, 2050 rue Amherst. C'est facile, on y accède par le métro Berry-UQAM. 13e édition du Festival d'un œil différent, exposition, plein d'activités. Geneviève Guilbeault, merci.
Bien, merci à vous.
Et au plaisir de vous rencontrer ou de vous reparler.
Au plaisir.
Santé mentale, les étudiants plus nombreux à demander des accommodements aux universités. Sur le site de Radio-Canada, on peut lire « Paniquer à l'idée de passer un examen écrit dans une salle remplie de camarades, des étudiants bénéficient de mesures d'accommodement qui leur permettent de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions possibles. » C'est le cas de Maria Lena. Cette étudiante de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba est inscrite au baccalauréat en sciences. Quand elle doit passer un test, elle le fait dans une salle privée. Quand les autres étudiants ont une heure pour un test, elle aura une heure et demie, par exemple. « Ça baisse mon niveau d'anxiété », explique-t-elle. « L'anxiété affecte mes scores. Ses résultats se sont améliorés depuis qu'elle a le droit à des mesures d'accommodement. » Jocelyne Gagnon coordonne le service d'accessibilité aux études de l'Université de Saint-Boniface depuis 9 ans. Au début, 5 étudiants s'y étaient inscrits. Cette année, cette liste compte près de 90 noms. La moitié des demandes sont justifiées par des problèmes de santé mentale. Le service d'accessibilité veut aider les personnes qui ont un handicap physique ou qui ont des troubles d'apprentissage, de santé mentale ou des maladies chroniques. Pour y avoir accès, les étudiants doivent fournir à l'université des documents provenant d'un médecin ou d'un spécialiste. C'est la semaine de prévention du suicide du 4 au 10 février dans le cadre de la 28e Semaine nationale de prévention du suicide. L'Association québécoise de prévention du suicide et ses partenaires déploieront une vaste campagne de sensibilisation ayant pour thème « Parler du suicide sauve des vies ». Le site commentparlerdusuicide.com et des témoignages montrant les bénéfices de la prise de parole seront notamment proposés. L'événement, qui se tient jusqu'au 10 février, a pour objectif de sensibiliser les citoyens et les décideurs à l'ampleur du problème et aux moyens de le réduire, mobiliser la population afin que tous jouent un rôle actif en prévention, augmenter la connaissance des ressources d'aide dont la ligne 1-866 appelle, disponible partout au Québec 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, normaliser la demande d'aide, en particulier chez les hommes, favoriser la prise de parole en lien avec le suicide en guidant les proches, les personnes vulnérables, les citoyens, les intervenants et les créateurs dans les façons d'en parler. Tous les groupes de la population sont visés par la campagne. Puisque le risque de suicide est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes au Québec, une attention particulière leur sera accordée. L'Association des aveugles et amblyopes haïtiens du Québec œuvre depuis plus de 28 ans pour l'intégration des personnes vivant avec un handicap visuel, tant au Québec qu'en Haïti. L'association contribue de façon significative à la promotion des handicapés visuels d'Haïti. Aussi, est-elle fière une fois de plus de participer au succès de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, SHAA. Selon les statistiques, Haïti compte près de 80 000 personnes non-voyantes qui requièrent à la fois des soins et des services dans le domaine de l'adaptation et de la réintégration sociale. Pour le 65e anniversaire de la SHAA, célébré en 2017, l'association projette, dans le cadre d'une première campagne de la canne blanche en Haïti, de commencer à fournir en 2018 des cannes blanches à nos compatriotes haïtiens aveugles et voyants, afin de leur faciliter une vie plus autonome, plus active et plus libre. Le but premier de la campagne est de sensibiliser la population haïtienne aux problèmes que rencontrent les malvoyants, dans leur vie quotidienne. De plus, des manifestations célébrant la canne blanche et ses bienfaits pour l'autonomie des déficients visuels seront organisées annuellement. La première semaine du mois de février, on en est plein dedans, on est dedans. Et le 15 octobre sera la journée mondiale de la canne blanche. Ici Hélène Denis qui vous remercie d'avoir été à l'écoute des paractualités de ce 7 février. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Merci à mes invités, Julie Pascale Provost, conseillère d'arrondissement du district du canal arrondissement Lachine et professeure en anthropologie au cégep Édouard-Montpetit, et à Geneviève Guilbeault, présidente du conseil d'administration de l'organisme D'un œil différent. À bientôt!